BFM Business. Midi, l'heure H, l'invité. Emmanuel Lechypre.
Invité dans cette deuxième partie de leur H, deux invités avec lesquels nous allons décrypter la très riche actualité du secteur de l'énergie, du blocage américain au G7 de Taormine, au chantier de la transition énergétique en France, en passant par la décision de la Commission européenne dans le dossier EDF Areva attendu ce jour et les dossiers chauds qui attendent Nicolas Hulot. Pour balayer tous ces sujets, nous sommes en compagnie de Patrice Geoffron. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Paris Dauphine, spécialiste des questions énergétique, et Michel Lepetit. Bonjour Michel Lepetit.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président du Shift Project qui publie Décarbonons, 9 propositions pour que l'Europe change d'air. Juste un mot sur The Shift Project, parce que c'est pas une ONG, c'est pas un think tank, c'est pas un syndicat professionnel. C'est quoi exactement?
C'est un think tank qui essaie de promouvoir massivement la décarbonation de l'Europe. Donc c'est un think tank qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici avec cette idée que la décarbonation, que le bas carbone est un enjeu de société, voire de civilisation. Donc je fais la promotion de ce livre. Achetez tous ce petit fascicule qui vous propose
on va en parler.
9 grands chantiers.
Alors messieurs, on commence par l'actualité de ce week-end avec ce G7 à Taormine en Sicile et Donald Trump qui refuse de se prononcer sur l'engagement de son pays à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Patrice Geoffron, quelles sont les motivations profondes de Donald Trump, au-delà de ce qu'il a promis peut-être à un électorat qui aime bien brûler beaucoup de carburant? C'est quoi les forces derrière cette position américaine?
Alors si tant est qu'on puisse décrypter ce que Donald Trump a à l'esprit en l'occurrence. Donc effectivement, tout d'abord, il devait envoyer un signal à son électorat. Si vous regardez une carte des États-Unis, il y a une assez bonne corrélation entre l'empreinte carbone des différents États et leur propension à voter pour Donald Trump. Donc c'était absolument nécessaire. Après, la difficulté à se prononcer sur le sujet, et d'après les échos qu'on peut en avoir, le débat intense dans l'équipe de Trump est lié au fait qu'il n'a pas totalement la main sur ses affaires. Et effectivement, il peut prendre une décision qui est une décision de sortie plus ou moins spectaculaire, ou il peut éventuellement traîner les pieds, c'est-à-dire ne pas sortir de l'accord de Paris sans mettre en application les différents engagements, puisque c'est un accord qui ne comprend pas de mécanisme de sanctions. Mais la réalité des choses, c'est que les États-Unis, c'est un grand ensemble très bigarré, dans lequel il y a beaucoup d'États qui, au contraire, sont très proactifs dans le domaine du climat, beaucoup d'entreprises, et notamment de grands acteurs comme les GAFA, qui sont également très très actifs. Et si on regarde spécifiquement la filière énergétique, on s'aperçoit que les difficultés qui ont été rencontrées par certaines filières industrielles, notamment le charbon, ne procèdent pas pour l'essentiel de la volonté de Barack Obama, mais d'une concurrence interne, pour l'essentiel le gaz de schiste américain contre le charbon américain. Et ces éléments, ça va être très très compliqué de les dénouer et de mettre les États-Unis en dehors de la grande transition qui s'amorce.
Alors, Michel Lepetit, pardonnez la naïveté de ma question. Bien sûr, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale, mais quand on voit que d'autres pays comme la Chine, qui sont aussi des gros pollueurs, ou l'Inde font des efforts, est-ce que finalement cet isolationnisme américain est si préoccupant que ça pour le dossier COP21?
Je crois qu'il faut l'inscrire dans un mouvement plus vaste, plus profond. On a plein de symptômes d'une difficulté de grands pays à se positionner dans une coopération mondiale. On n'a que le Brexit pour le cas de l'Angleterre qui quitte l'Union européenne. C'est quand même un signal extrêmement négatif pour de la coopération transnationale. Et puis vous avez la position de Trump qui va au-delà du climat. Trump a pris des positions irréelles sur beaucoup de sujets. Deux sujets, moi, qui me préoccupent. Il y a bien sûr celle du climat et le fait qu'en plus il soit revenu sur sa proposition de donner une position réelle. Je ne sais pas s'il a l'art de négocier, mais en tout cas, il a une négociation un peu bizarre ces temps-ci, M. Trump. Mais il a aussi fait cette proposition un peu lunaire de monter la croissance économique des États-Unis à 3% que personne n'endosse. C'est-à-dire que plus personne n'y croit, mais il va l'afficher et ça sera dans le budget américain sans aucun fondement à part deux propositions. Vous savez, une baisse des taxes totalement irréelle, non financée, et puis un plan de relance dont on parlera tout à l'heure, parce que nous, on propose plutôt une relance sur la transition. Le plan de relance, M. Trump, les fameux 1000 milliards de dollars, sont non fondés. Donc on a cette irréalité de Trump qui conduit aussi à ne pas croire au changement climatique. Vous savez que il a changé 3 ou 4 fois, peut-être même plus, de position sur le sujet. Là, actuellement, on le sent tiraillé. J'espère que des forces de rappel vont faire qu'il reviendra.
On attend une réponse dans la semaine. Hein. Il a promis une réponse dans la semaine. Vous avez un pronostic? Patrick Geoffron.
Ce serait, je sais pas si la comparaison vaut, mais jouer à la roulette russe que d'anticiper ce qu'il peut dire. En revanche, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est de regarder les choses d'un point de vue juridique. C'est-à-dire quelle est sa capacité à sortir de cet accord. Il y a des subtilités juridiques qui sont d'une extrême complexité et qui pourraient conduire à ce que un mécanisme de sortie prenne du temps. C'est à peu près acquis. Et donc à délayer un peu le temps. Le type de difficulté qu'il a pu observer par ailleurs dans un certain nombre de décisions abruptes qu'il a prises les premières semaines, notamment en termes d'immigration.
Alors, Michel Le Petit, vous avez insisté sur la croissance. Hein. Vous disiez, il promet une croissance phénoménale. Il y a un des arguments sur lesquels les membres du G7 espéraient le convaincre. Ce week-end, c'était de dire, mais regardez, si on décarbone l'économie, ça fait de la croissance, ça crée des emplois. Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que on peut espérer des centaines de milliers d'emplois de la transition énergétique? Est-ce que c'est le moteur de la croissance un peu miraculeux qu'on nous promet? Quand on voit les chiffres que donne l'industrie automobile, par exemple, on voit bien que dans l'industrie automobile, apparemment, la transition énergétique, le passage au moteur électrique, ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée.
D'abord, je reviendrai sur ce qui a été dit tout de suite. Là, je pense que c'est exemplaire la position des pays européens lors de ce sommet. Pour essayer de convaincre M. Trump de revenir en arrière sur sa position. Enfin, il y avait aussi les Japonais et les Canadiens, mais en tout cas, toute l'Europe était unie, et Mme Merkel, très claire, et je pense le président de la République aussi, pour dire à M. Trump, faites marche arrière sur cette position qui n'est pas tenable. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut avoir une vision de court terme. On peut être America first et on peut être America now, et dire, il me faut du charbon, du pétrole et du gaz. D'ailleurs, ce qui est une position américaine classique, connue. Ça n'évacuera pas le problème du changement climatique. Donc de toute façon, il faudra faire la transition. Peut-être qu'à court terme, M. Trump a raison, il faut faire beaucoup de charbon, beaucoup de gaz et beaucoup de gaz à effet de serre. C'est une vision très court-termiste. Très court-termiste. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Américains, et notamment des grandes entreprises américaines, qui le rappellent alors actuellement en lui disant « Non, ça n'est pas lucide. Il faut au contraire préparer un avenir qui est un avenir complexe, qui n'est pas simple. Il ne faut pas se voiler la face. » C'est créateur d'emplois, bien sûr, mais c'est une énorme modification du paysage économique. Donc il faut le faire, et il faut le faire en concertation avec les autres pays.
Mais Patrice Geoffron, cet argument de la croissance tirée par la transition environnementale, on peut y croire vraiment ou pas? Ou est-ce que tous les emplois qu'on nous promet, c'est pas un petit peu un mirage?
À l'heure actuelle, il y a, je crois aux États-Unis, statistiques officielles, 66 000 mineurs de charbon. Il y a 200 000 emplois d'ores et déjà dans la filière du photovoltaïque. Si Donald Trump, et c'est ce à quoi il s'est engagé, souhaite recréer des emplois dans la filière du charbon...
Il s'est surtout engagé à créer des emplois.
Voilà, ça va supposer qu'il y ait des investisseurs qui acceptent de s'engager sur 50 ans. Ça supposerait de faire du charbon propre, du charbon en capturant les émissions de CO2. Et donc ça veut dire que derrière tout ça, il faudrait qu'il y ait des investisseurs qui aient une foi suffisante pour soutenir des projets qui sont des projets qui vont se rentabiliser sur plusieurs dizaines d'années. Dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, Donald Trump est là pour 8 ans. On est dans des échelles de temps qui ne peuvent pas se comparer. Donc il va de toute façon rencontrer une difficulté dans laquelle il va se heurter à des mécanismes de marché, notamment à la difficulté qu'auront des financiers à s'engager dans la voie qu'il souhaite mettre en avant. Ces difficultés, il va les trouver également au niveau pétrolier. Pour parvenir à créer beaucoup d'emplois, à créer beaucoup de valeur ajoutée avec le pétrole, il faut que le prix du pétrole augmente. Et il n'a pas la main sur le fait de parvenir à faire augmenter le prix du pétrole. Toutes les décisions qui ont été prises, notamment d'autoriser par exemple des forages dans les terres fédérales, ont plutôt augmenté les volumes de production. Et en augmentant les volumes de production, le prix va baisser. Et donc le prix a vocation à rester sans doute très bas, ce qui est pas une bonne nouvelle évidemment pour la transition énergétique, et ce qui de toute évidence va limiter la capacité de Donald Trump à créer beaucoup d'emplois dans les filières très carbonées. Et or, il y a un enjeu de globalisation derrière tout ça, et qui a bien été montré durant ce G7, qui n'est pas simplement un enjeu de coopération. Derrière la coopération se cassent des enjeux en termes de concurrence, et de concurrence très très vive. On a pu penser à un moment que le principal souci environnemental des Chinois était de protéger les pandas. Non, la réalité des choses à l'heure actuelle, c'est que les Chinois sont extrêmement engagés, notamment pour faire face à une pollution de l'air qui est une épidémie absolument terrible. Et ils sont engagés dans la transition énergétique à tel point que si on regarde annuellement les investissements dans les filières bas carbone des Chinois, on est dans des volumes d'investissement au moins deux fois supérieurs à ce qu'on observe aux États-Unis. Donc ça veut dire que le leadership de ces filières, on a déjà vu ce qui s'est passé en matière de photovoltaïque, en matière d'éolienne, en matière de véhicules électriques, en matière de stockage. Si les Américains ne s'engagent pas, les emplois vont partir ailleurs.
Si.
Oui.
Juste, si je peux ajouter, je pense que M. Trump vit dans ce monde américain qui vit le, entre guillemets, miracle du gaz et du pétrole de schiste, qui est un double miracle, à la fois technologique, mais surtout taux d'intérêt extraordinairement bas, qui fait affluer des centaines de milliards de dollars sur ces entreprises et qui tire effectivement, on peut le dire, une partie de la croissance américaine et même de l'emploi en Amérique. Ça semble totalement illusoire par rapport à la contrainte climatique. Donc à long terme, ça n'est pas tenable. Et je reviens sur l'Europe. Nous n'avons pas ce gaz, nous n'avons pas ce pétrole de schiste. Nous avons notre capacité, notre intelligence à mener des projets dont certains seront très, très fortement créateurs d'emplois. Songeons par exemple à la rénovation énergétique des bâtiments. C'est des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être mis sur la table par les Européens, par M. Macron et Mme Merkel, assez rapidement.
Alors, puisque vous nous ramenez en Europe, allons-y. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir, finalement, l'ampleur que prend la transition énergétique comme priorité dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, alors que finalement, pendant la campagne, il en a assez peu parlé par rapport à d'autres candidats qui étaient Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, Michel Le Petit.
Alors d'abord, on peut se réjouir que le président de la République ait signé... amender notre manifeste. On avait proposé à tous les candidats de signer un manifeste pour mettre comme priorité européenne la transition bas carbone pour en faire le projet européen, et ce qui est en train d'émerger un peu partout. Donc ça, on le voit. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le fonds stratégique européen, les fameux 300 milliards. La proposition de la Commission, c'est de le porter à 500 milliards et que 40% de ces fonds, les 500 milliards, soient affectés sur la transition bas carbone. Donc c'est quand même des signaux assez forts qui sont portés en Europe. Je pense que l'Europe se mobilise. Il y a un sujet très, très réel. Je pense que M. Macron connaît bien ces sujets. Il est très très compétent, il a une bonne équipe pour l'encadrer, et puis il a un très bon ministre maintenant qui s'occupe de ces affaires-là.
Ah justement, on va
très
y venir,
courageux.
On va y venir.
Et donc je pense qu'il a une conscience aiguë que c'est une opportunité. Il faut en faire une opportunité pour l'Europe, et je pense qu'il saura rebondir sur ce sujet. À vrai dire, je pense que c'est la dernière fois que l'Europe peut porter un si beau et si grand projet. Vous connaissez les problèmes qu'a l'Europe actuellement. Je pense qu'il est temps d'en faire le projet majeur des 50 ans qui viennent.
Alors certes, mais Patrice Geoffron, il n'en demeure pas moins que l'objectif de la loi de transition énergétique qui prévoyait la réduction de la part du nucléaire dans notre production d'électricité de 75 à 50% d'ici 2025, même Emmanuel Macron dit que cet objectif n'est pas tenable. C'est quoi une feuille de route raisonnable ?
Alors, tout l'enjeu de la présidence Macron, et en l'occurrence porté par Nicolas Hulot, c'est finalement de faire un peu le bilan d'un certain nombre de contradictions ou d'éléments qui n'ont pas, où la cohérence n'a pas été trouvée de la loi de transition. On peut même aller plus loin parce que finalement le système énergétique français, il y a une réflexion collective qui est conduite depuis le Grenelle de l'environnement. Ça fait 10 ans et donc il faut qu'on sorte de la phase de réflexion et qu'on soit dans une phase désormais d'implémentation. Et il y a quelques contradictions à peu près évidentes. Effectivement, notamment sur la diversification du mix électrique, ou l'objectif qui a été défini en 2012, sauf que nous sommes en 2017, c'est d'aboutir à 50% de nucléaire dans la production électrique. En première analyse, le président a dit qu'il maintenait l'objectif, sauf que ça supposerait, puisque la demande stagne, il ne s'agit pas de répartir différemment un gâteau qui augmente, la demande d'électricité stagne. Et donc, aboutir à cet objectif, à cet horizon, reviendrait à fermer de l'ordre d'un tiers des réacteurs nucléaires. Ce qu'a dit d'ailleurs la Cour des comptes. Donc de l'ordre de 20 réacteurs nucléaires. On est en train de réfléchir. Ce qui est en débat à l'heure actuelle, c'est simplement Fessenheim. Donc on voit le chemin qui resterait à parcourir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que l'actuel président et Nicolas Hulot va être évidemment un acteur de premier rang dans la manière d'inventer des solutions et trouver des consensus. Il faut que cette diversification, enfin que le point de fuite, c'est-à-dire le moment où on va atterrir à ces 50%, soit redéfini, parce que personne ne peut croire qu'on y aboutisse à l'horizon 2025. Donc ça, c'est un premier enjeu. Je ne vais pas prendre trop de temps sur les enjeux internes. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu externe. Et de ce point de vue, Nicolas Hulot sera en première ligne. La stratégie de transition énergétique des Européens, elle est un peu étrange. C'est-à-dire qu'à la fois, on a été pionnier, on a défini dès la fin des années 2000, avec le paquet énergie-climat de 2007, une stratégie européenne très très ambitieuse, puisqu'il s'agit de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre en 2050, sauf qu'ensuite on la déploie à l'européenne, c'est-à-dire de manière fragmentée. Aujourd'hui c'est l'addition de 27 ou 28 transition sur une base locale avec assez peu de coordination dans les choix. Or, dans la globalisation et dans la concurrence internationale, pour créer de la valeur ajoutée, dynamiser des entreprises et créer des emplois liés à la transition, eh bien, on va se trouver avec des problématiques qui vont relever d'effets de masse. Les Chinois vont massifier un certain nombre de technologies et les Européens ne peuvent pas se permettre d'être 27 ou 28 nains peu coordonnés dans cette transition.
Alors, Michel Lepetit, notre spécialiste énergie, Mathieu Pechberti, disait que le plan secret, entre guillemets, d'EDF, c'était plutôt de rallonger cet horizon à 2050, histoire de profiter au maximum des centrales qui sont encore aujourd'hui en état de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, peut-être, comme c'est le cas dans votre livre, le livre du Chiffre Project Décarbonons, le coût, finalement, des différents sentiers de sortie du nucléaire? Il y a des sentiers qui sont carrément insupportables en termes de coûts, et il y en a d'autres qui sont quand même plus raisonnables.
Je pense qu'il faut suivre ce qu'a dit Patrice. Justement, on a un sujet qui est éminemment européen. Enfin, parlons d'abord de l'électricité, puisqu'on parle ici d'électricité avec le nucléaire, mais il n'y a pas que l'électricité, j'y reviendrai. Sur l'électricité, clairement, le sujet est européen. La question, c'est que notre électricité reste très très carbonée en Europe. Et donc nous proposons, une des 9 propositions qui est faite dans ce magnifique ouvrage, c'est de décarboner l'électricité européenne massivement. C'est-à-dire qu'on vise à 2050 à la réduire à quasiment 100% congrue. Ça demande des efforts colossaux et ça demande de bien mesurer les efforts pays par pays. C'est vrai que la situation en France est très différente de la situation dans 3 de nos voisins, qui sont l'Angleterre, l'Allemagne et la Pologne. Pour ne parler que de la Pologne, son énergie électrique est totalement carbonée, vous le savez, et la Pologne est très dépendante du charbon. Donc j'invite, je sais que le président Macron a une très forte préoccupation des sujets européens et l'Union européenne, c'est ce qu'il a porté aussi au pouvoir. Je pense qu'il a là un cas d'école de coopération européenne et de solidarité européenne, puisqu'il faudra la solidarité de certains pays vis-à-vis d'autres et notamment de nos amis polonais pour les aider à sortir du charbon.
Alors restons sur le cas français. Est-ce que la bonne solution, c'est comme le fait EDF, d'aller toujours plus loin dans la dépendance vis-à-vis du nucléaire? La Suisse dit finalement non au nucléaire, l'Allemagne l'a déjà abandonné. Est-ce que la solution, c'est d'aller toujours plus loin dans le nucléaire, puisque finalement, ce que va faire EDF, c'est se renforcer toujours plus?
Tout ne sera pas nucléaire. De toute façon, il y a des pays qui n'auront pas de nucléaire, des pays qui ne veulent pas de nucléaire, mais il y a beaucoup de pays qui veulent aussi du nucléaire. Il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui se posent des questions sur le nucléaire. Donc la question nucléaire, c'est une des composantes d'un mix qui est beaucoup plus global et qui intègre toutes les énergies. Pour revenir sur ce sujet, l'autre sujet, juste un petit point quand même, il n'y a pas que l'électricité. Je sais qu'en France, on aime bien se focaliser sur le sujet de l'électricité parce que c'est un sujet qui fait polémique, mais il y a tout le sujet du pétrole qui me semble un sujet beaucoup plus important et sur lequel, là, pour le coup, l'Europe devrait être unie. On n'a pas de pétrole. On en a quasiment de moins en moins en mer du Nord. Donc nos ressources pétrolières vont s'amenuisant, notre dépendance est quasiment totale, la balance commerciale sur le pétrole est épouvantable. On a intérêt collectif à faire un énorme effort sur ce sujet. Énorme. Et là, je pense que à la fois allemand, polonais et français, on peut tous se retrouver pour essayer de faire en sorte de réduire cette dépendance tragique qu'on a à cette énergie-là.
Patrice Geoffron, est-ce qu'on n'est pas un peu aveuglé par le sort d'EDF, cette filière nucléaire française qu'on essaye tant bien que mal de faire survivre?
Je vais m'échapper 30 secondes du nucléaire pour faire écho à ce que vient de dire Michel. Dans la loi française de transition énergétique, il y a un objectif à 2030, c'est demain, de moins 30% de consommation d'énergie fossile. Pour l'essentiel, c'est à peu près moins 30% de pétrole, dans la mesure où on n'utilise presque plus de charbon. C'est un enjeu absolument extraordinaire et qui notamment va supposer d'intervenir sur les systèmes de transport et ça va de toute évidence occuper l'agenda de Nicolas Hulot. Alors pour revenir sur le nucléaire, il me semble simplement qu'il faut distinguer deux choses. L'augmentation de la durée de vie d'un certain nombre de réacteurs actuellement en fonctionnement, de 10 ans, de 20 ans, ce qui est une chose, ou deuxième option, après 2030, de déployer beaucoup de nouveaux réacteurs et en particulier des EPR. Il faut bien comprendre que c'est pas la même chose. On est à la bord d'une décennie durant laquelle les autres technologies bas carbone, notamment l'éolien photovoltaïque, vont continuer à gagner en maturité.
Et le nucléaire va devenir trop cher finalement.
Alors oui, mais trop cher, on verra. Mais en tout cas, le problème n'est pas le même que de dire en 2018 et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, va rendre un certain nombre d'avis. On prolonge la durée de vie d'un certain nombre de réacteurs que de se prononcer en 2030 pour déployer beaucoup de nouveaux réacteurs parce que les réacteurs de 2030, ce sont des réacteurs qui ont vocation à fonctionner jusqu'à la fin du siècle. Or, on va se retrouver dans un environnement extraordinairement concurrentiel à ce moment-là avec beaucoup de solutions bas carbone et donc il faut absolument obtenir de la diversification.
Je veux juste rajouter qu'il y a un constat général qui est fait au niveau de l'Union européenne, c'est le fiasco total de notre politique financière de financement de l'électricité. Pour le coup, ça, tout le monde est d'accord pour dire que ce libéralisme débridé, mal compris, cette mise en concurrence imbécile, a conduit à un marché totalement délité qui ne fonctionne plus du tout. Donc on se retrouve dans une situation qui est assez déplorable. Comment bâtir le système électrique de demain, donc les centaines, voire les milliers de milliards d'euros qu'il faut mettre sur la table, alors que le marché dysfonctionne très fortement. Je pense que M. Macron, notre président, en a fortement conscience. Il y a beaucoup de rapports maintenant qui convergent. Je pense que la Commission européenne en a conscience. Il faut être capable de donner une vision de très long terme. Comme disait tout à l'heure Patrice, il faut se projeter, et vous l'avez dit Emmanuel, il faut se projeter à 50 ans, voire à 100 ans. Donc financer à 50 ans, à 100 ans, des infrastructures
Michel,
qui sont totalement
décarbonées.
Michel
Le Petit, en 30 secondes, est-ce que Nicolas Hulot est l'homme de la situation? On voit bien que le défi est considérable. C'est peut-être l'homme qui rentrera dans l'histoire comme celui qui va enclencher la transition énergétique en France, mais il n'empêche qu'il a des gros cailloux dans sa chaussure, alors qu'à l'échelle de l'histoire, ce sont peut-être pas des événements majeurs, mais le chantier de Notre-Dame-des-Landes, c'est un problème. Bure, l'enfouissement des déchets, c'est un problème. Comment il va se dépatouiller de tout ça? Est-ce que vous le voyez rester longtemps, ou est-ce que vous le voyez, je sais pas, claquer la porte parce que il ne parviendrait pas à résoudre toutes ces contradictions?
Je pense que d'abord, je souhaite bon courage à Nicolas. Je pense qu'il a un dossier difficile. Il a des projets effectivement très nombreux. J'espère qu'il va garder une ligne directrice forte sur les sujets qu'on vient d'évoquer, une vision de très très long terme, pour ne reparler que la mobilité. Quand on pense que 95% de la mobilité, c'est du pétrole, je pense que l'enjeu, c'est mondial, l'enjeu est considérable. Nicolas en a fortement conscience, donc je pense qu'il fera les bonnes démarches. Après, à lui de déminer et à lui de créer effectivement les consensus qui vont bien, qui sont difficiles dans notre pays. On a une élection derrière nous qui n'a pas été simple. Je pense que d'avoir effectivement à la fois du côté de M. Mélenchon, Mme Le Pen, 45% des voix, ce n'était pas anodin. Je pense que M. Hulot saura créer ses consensus.
Merci Michel Le Petit du Shift Project, Patrice Geoffron, professeur à Dauphine. C'est la fin de cette heure H. Deuxième partie de leur H ce soir à 18h.
Merci Emmanuel.